Il est 21h en temps universel. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique en direct de Washington. Ce soir, émission spéciale dans 5 minutes donc, consacrée à Martin Luther King Jr. en lieu et place de Sahel+. Mais d'abord, les informations. Depuis ce lundi matin, les rues de Kinshasa sont fortement quadrillées par les forces de l'ordre, en particulier les abords du palais du peuple. C'est là que les sénateurs congolais doivent voter la loi électorale adoptée samedi soir par les députés. Le point avec Eric Ambago de notre station partenaire Top Congo FM à Kinshasa.
Ils étaient des milliers dans les rues de Kinshasa. À l'appel de l'opposition, ces militants protestaient contre la modification de la loi électorale. Ils se sont heurtés à un dispositif militaire et policier, dispositif déployé à l'occasion de l'arrivée à Kinshasa du président angolais Eduardo Santos. Si certains opposants ont pu manifester avec leurs militants, d'autres ont été bloqués au siège de leur parti avant d'être libérés. Les forces de l'ordre n'ont pas hésité d'user de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Les ONG de défense des droits de l'homme parlent de 8 blessés, mais selon le porte-parole du gouvernement, il y aurait 4 morts, 2 côté forces de l'ordre et 2 côté civils, tous des morts par balle. La circulation et les commerces étaient paralysés au courant de la journée. En début de soirée, le calme était en train de revenir, même si, dans certains quartiers, des poches de résistance étaient enregistrées. De Kinshasa, Eric Ambago de Top Congo pour VOA Afrique.
Et rappelons que l'opposition congolaise demande au peuple de maintenir la pression pour empêcher l'adoption de la réforme électorale. D'autre part, d'après notre correspondant Primo Pascal Rudaigua dans l'est du pays, plusieurs personnes ont été arrêtées à Goma, dans la province du Nord Kivu, lors de la marche des partis d'opposition contre l'adoption du projet de loi électorale. Au Niger, le gouvernement du Niger donc a annoncé un deuil national de 3 jours à compter de lundi en mémoire des 10 personnes mortes durant les émeutes contre la caricature de Mahomet, publiée la semaine dernière par l'ordinateur français Charlie Hebdo. De vendredi à dimanche, plusieurs villes du pays ont été plongées dans de violences meurtrières. Mais ce lundi matin, tout est rentré dans l'ordre, nous dit notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa. La police au Kenya a lancé des gaz lacrymogènes ce lundi sur un groupe d'écoliers qui protestaient contre la perte de leur terrain de jeu ayant été attribué à un promoteur immobilier privé. Une vidéo prise à Nairobi montre des enfants qui courent dans la panique après que la police anti-émeute ait largué une bombe lacrymogène sur la foule. Au moins 3 enfants ont été blessés dans l'agitation. Le terrain en question appartenait à une école primaire, mais la route a récemment été revendiquée par un promoteur pour un parking d'hôtel adjacent. Ouverture des écoles en Guinée aujourd'hui après un délai de 5 mois en raison d'Ebola. Le Libéré envisage de rouvrir à son tour ses écoles le mois prochain. Les autorités assurent que les écoles seront dotées de thermomètres de désinfectants pour le lavage des mains. En Guinée, des groupes de la société civile ont menacé de protester si les écoles ne rouvraient pas ce lundi. Maintenant, ils ont dit surveiller les établissements scolaires pour s'assurer que toutes les mesures sanitaires sont bien en place.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
L'Iran annonce la mort d'un de ses généraux dans une frappe de l'aviation israélienne sur le plateau du Golan. Le général Mohamed Al-Ahadi, un ancien commandant de la garde révolutionnaire, a été tué en même temps que 6 membres du groupe chiite libanais Hezbollah. Israël n'a pas confirmé l'attaque. D'intenses combats ont été signalés dans l'est de l'Ukraine entre les forces gouvernementales et les séparatistes pro-russes. Les deux camps revendiquent le contrôle de l'aéroport de Donetsk, non loin de la frontière avec la Russie. L'armée ukrainienne affirme que des centaines de soldats russes ont traversé la frontière pour venir en aide aux rebelles. Au Yémen, le gouvernement et les rebelles houthis ont signé une trêve qui semble tenir à Sanaa, la capitale. Des affrontements avaient éclaté lundi matin suite à une attaque contre le cortège du Premier ministre. Au moins 9 personnes ont été tuées. Ce sont 7 dont des civils ont été blessés, selon un membre du gouvernement cité par l'AFP.
I feel a big change are going to be made. I feel a big change you're going to be me.
Michael Luther King, de son vrai nom, est fils et petit-fils de pasteur. Il est né le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie. Le jeune King n'a certes pas grandi dans les privations économiques que la race noire a connues aux États-Unis. Par contre, il a beaucoup souffert du racisme quotidien. L'esclavage était officiellement aboli depuis la guerre de sécession, mais la ségrégation raciale était toujours en vigueur partout. Dans les écoles, dans les hôpitaux, sur les plages, dans les transports publics et même dans les toilettes. Partout s'affichaient des pancartes signalant les lieux interdits aux Noirs. Le Noir n'est plus esclave, mais il reste obligatoire au service de son maître. Le Noir n'a pas le droit de signer des contrats. Le Noir n'a pas le droit de voter. Le Noir n'a pas le droit d'aller en justice. Le Noir n'a pas le droit de témoigner contre un Blanc. Le Noir n'a même pas le droit de voyager d'un État à un autre, sauf lorsqu'il est domestique accompagnant son maître ou les enfants de son maître. Le Noir est un menteur. Le Noir est un voleur. Le Noir est un violeur. Le Noir est l'incarnation du mal. Il est toujours soupçonné de tous les délits. Il est toujours coupable. Et le verdict, toujours sans appel, le Noir est souvent pendu à la plus haute branche. Billie Holiday nous décrit ce sud profond où a grandi le pasteur King sous les étranges fruits des arbres du sud.
Strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees.
Sur les arbres du sud pendent d'étranges fruits, du sang sur les feuilles ruisselant jusqu'aux racines, et des corps noirs pendus se balancent avec la brise du sud. Ce sont là les fruits étranges que portent les arbres du sud. Michael Luther a 6 ans lorsqu'il s'est lié d'amitié avec un enfant de son âge. Seulement, cet ami est blanc, et ce jeune compagnon d'école, au nom de la couleur de la peau, reçoit l'interdiction formelle de jouer avec le jeune Michael. Michael Luther a 6 ans lorsque son père, pasteur, décide de changer de nom. Alors, Michael s'appelle désormais Martin Luther King Jr., le prénom prédestiné. Et suivant les traces de son père, le jeune King choisit de devenir pasteur. Il passe son doctorat de théologie à l'université de Boston. En septembre 1954, il est nommé pasteur à l'église Baptiste sur l'avenue Dexter à Montgomery, en Alabama.
I never will go back to Alabama. That is not the place for me. I never will go back to Alabama. That is not the place for me. You know they killed my sister and my brother, and the whole world let them peoples go down there free. I never will love Alabama. Alabama seemed to never have love for me. I never will love Alabama. Alabama seemed to never have love for me. Oh God, I wish you would rise up one day. Lead my people to the land of peace. My brother was taken up for my mother, and a police officer shot him down. My brother was taken up for my mother, and a police officer shot him down. I can't help but to sit down and cry sometimes. Think about how my poor brother lost his life.
Il est à peine installé qu'en décembre 1955, une couturière noire, Rosa Parks, est condamnée et jetée en prison. Son crime, dans un autobus de l'époque, elle avait osé refuser de céder sa place à un blanc. C'est le choc dans la communauté noire de la ville. La Montgomery Improvement Association est créée, une association qui veut lutter pour l'amélioration des conditions des Noirs. Elle est dirigée par le pasteur King qui demande à ses frères. Peut-on arrêter et mettre en prison une personne pour le simple délit d'une place dans un autobus? Écoutez mes frères, puisqu'on ne veut pas des Noirs dans les autobus, nous n'avons qu'à cesser de les prendre. Ce fut le mot d'ordre. Toute la communauté noire de Montgomery commença à boycotter les bus. Résultat, les bus tournent à vide et frôlent la faillite. Martin Luther King est arrêté pour la première fois. Il est jeté en prison pour un excès de vitesse. Il roulait à 30 miles sur une route où la vitesse est limitée à 25. 4 jours après son arrestation, une bombe est balancée dans sa maison et de partout, on lui signifie de manière assez claire « Sale nègre, nous te ferons péter la gueule !» Cet épisode de Montgomery, Martin Luther King le rappelle dans un discours qu'il a fait à Chicago en 1966.
It was the beginning of a movement where 50,000 black men and women refused absolutely.
Ce fut le début d'un mouvement où 50 000 hommes et femmes noires ont absolument refusé de prendre les bus et ils ont solidairement marché ensemble pendant 381 jours.
Déjà à Louisville, dans le Kentucky, dès 1871, les populations noires, appelées plusieurs manifestations, avaient arraché le droit de s'asseoir dans les tramways de la ville. Oui, ils pouvaient s'asseoir, mais uniquement aux endroits qui leur étaient réservés. C'est la campagne de Montgomery, dirigée par le pasteur King, qui donna une dimension nationale au changement. En novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis déclare que la ségrégation dans les bus est illégale et qu'elle est interdite dans les transports publics de tous les États fédéraux. Le 21 décembre 1956, pour la première fois dans l'histoire de l'Alabama, noirs et blancs pouvaient s'asseoir côte à côte dans un même autobus. Ce fut la première victoire. Mais il restait encore un long chemin à parcourir, une sorte de traversée avec les souffrances de toute une race. Et personne n'a jamais pu décrire avec la seule force des mots les troubles, les difficultés que tous les Noirs ont vécues ici aux États-Unis. Arcy Shepp essaie dans un phrasé simple « Nobody knows the troubles I have seen. » Personne ne sait les difficultés que j'ai vécues. Après l'épisode de Montgomery, Martin Luther King fonde la Southern Leadership Conference, une plus grande association avec tous les leaders noirs du Sud. Cette association lutte pour l'égalité des droits entre blancs et noirs, jaunes et rouges aux États-Unis. Cependant, Martin Luther King, qui s'était déjà familiarisé avec la pensée du Mahatma Gandhi, refuse absolument de prendre les armes de ses adversaires. Il récuse la violence parce que, selon lui, la haine est un fardeau très lourd à porter. Il opte pour une résistance passive, une confrontation massive, une sorte de croisade morale contre la ségrégation. En somme, la désobéissance civile. On l'a même surnommé le père des sit-ins parce qu'il mobilise des milliers de manifestants pour envahir chaque fois les lieux interdits aux Noirs. Des centaines de milliers de personnes suivent toujours ces marches pacifiques en tenant en un seul refrain des hymnes d'espoir et de liberté. Mais ces manifestations pacifiques étaient, la plupart du temps, rythmées par des coups de matraque, de chiens policiers, des gaz lacrymogènes, des jets de pierre, des injures et des attaques de toutes sortes. Mais rien ne pouvait arrêter cette marche. Cette longue marche contre la peur, cette longue marche pour l'égalité entre tous les Américains.
I think I'm right. I think the cause that we represent is right. But Lord, I must confess that I'm.
Je crois que j'ai raison. J'estime que notre cause est juste. Mais mon Dieu, je dois avouer qu'il m'arrive de faiblir, de trembler et de perdre mon courage. Et c'est à ce moment-là que j'entends une voix intérieure me dire « Martin Luther, lève-toi pour la vertu, lève-toi pour la justice, lève-toi pour la vérité, et je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. »
Il trouve toujours son élan pour redonner le coup d'accélérateur à son action. Il fonde le syndicat des étudiants non-violents. Il incite et dirige les Noirs à s'inscrire sur les registres électoraux. En 1960, il est déjà considéré comme la plus grande figure de la lutte des Noirs aux États-Unis. En 1962, il a rencontré le président John Fitzgerald Kennedy. Et en 1963, défiant encore un ordre de justice qui interdisait sa manifestation à Birmingham, en Alabama, il est à nouveau jeté en prison. Cette fois, des hommes d'église lui reprochent d'être imprudent et intempestif. Depuis sa prison, Martin Luther King le répond dans un livre intitulé « Lettre de la prison de Birmingham » où il explique pourquoi le mouvement des droits civiques des Noirs ne pouvait pas attendre. Et le chanteur de blues Big Bill Bronzy nous explique.
This little song that I'm singing about, people you know is true. If you black and got a work for a living, this is what they will say to you. This says, if you was white, she's all right. If you was brown, stick around. But as you black, brother, get back, get back, get back. I was in a place one night.
Cette petite chanson que je chante, brave Jean, vous savez que c'est la stricte vérité. Si tu veux travailler pour gagner ta vie, voici ce qu'on te répond. Si t'es blanc, tout va bien. Si t'es brun, attends un peu. Mais si t'es noir, alors fiche le camp le plus loin d'ici. Déjà, le premier étudiant noir à entrer dans l'université d'Oxford est victime d'un attentat.